bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce dernier dimanche de l'année, je nous invite à parcourir quelques versets dans l'évangile selon Luc. Donc on lira les versets Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Luc 14, 25 à 35, je lis. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit: si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000. S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? On ne peut plus l'utiliser ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'y a plus qu'à le jeter. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Voilà ces paroles adressées par Jésus-Christ à une foule. Le verset 25 nous dit de grandes foules qui l'accompagnaient. Sylvain a évoqué tout à l'heure que Jésus multipliait le pain, il faisait des miracles. On peut comprendre donc que à l'écoute du nom de Jésus, il y a des foules. Grande foule nombreuse qui accourt. Je me suis demandé, est-ce qu'aujourd'hui, après 2000 ans de christianisme, aujourd'hui ici à Blanc-Mesnil en France, est-ce que le nom de Jésus attire des foules? Est-ce que les gens, quand ils entendent Jésus quelque part, ils sont comme les personnes là, les contemporains de Jésus, qui accourent pour voir? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis pas très convaincu. Le nom de Jésus aujourd'hui, 2000 ans après sa mort et sa résurrection, apparemment attire moins la foule. Et c'est quelque chose qui doit conduire le chrétien à réfléchir. Mais il en est quand même des hommes et des femmes qui viennent à Jésus et qui sont comme ces personnes dont parle ce verset 25. Ces grandes foules, il est dit dans ce verset, qui suivaient Jésus. Et Jésus se retourne vers ces personnes et leur adresse ces paroles qu'on a lues. L'impression que j'ai, moi, à la lecture de ces versets, J'ai plutôt l'impression que Jésus veut décourager ses foules. L'impression qu'on a quand on lit ces versets, c'est comme si Jésus disait « Non, mais attendez, arrêtez de me suivre. » À première vue, c'est ce qui se dégage de ce texte. Et pourquoi ça se dégage de ce texte? Parce qu'on a, à trois reprises, au verset 26, 27 et 33, l'expression « ne peut être mon disciple ». Ne peut être mon disciple. Au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère et toute sa famille, il ne peut être mon disciple. » Si quelqu'un vient à moi, verset 27, et n'est pas prêt à porter sa croix, il ne peut être mon disciple. Et enfin, ce verset 33, où Jésus semble résumer toute sa pensée, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Trois fois cette expression, ne peut pas être mon disciple. Je me suis demandé, mais dis donc, pour un texte d'évangélisation, c'est quand même pas très motivant. Là, Jésus ne semble pas très, je dirais, il donne pas forcément envie à ces foules-là qui le suivent, hein, de continuer à le suivre. Mais il ne faut pas, à la lecture de ce texte, penser, frères et sœurs, que Jésus ne veut pas être suivi. Qui ne veut pas de disciples, surtout pas. Le texte qu'on a lu est entouré de plusieurs paraboles. La parabole juste avant est dans ma Bible intitulée la parabole des invités. Jésus présente le royaume de Dieu comme un grand repas, un grand banquet où tout le monde est invité. Dieu nous invite tous dans son royaume. Et dans cette parabole, Jésus nous montre même qu'il y a des personnes qui refusent. Certains refusent de venir à la table du Seigneur. Les paraboles qui suivent le texte qu'on a lu nous montrent Dieu dans la peau de quelqu'un qui cherche ses brebis. La parabole de l'enfant prodigue en Luc 15, que vous connaissez bien, nous montre Dieu comme quelqu'un qui attend, presque les larmes aux yeux, que ses enfants reviennent à lui. Loin de Jésus, donc, l'idée de dire « Stop, arrêtez de me suivre, ne soyez pas mes disciples, oubliez ce que j'ai dit. » Bien au contraire. Les propos de Jésus sont là pour faire réfléchir la foule et pour nous faire réfléchir aussi. Jésus donne trois conditions pour être son disciple. Il ne s'agit pas seulement de marcher dans la foule qui suit Jésus, qui scande son nom. Pour être disciple de Jésus, il faut d'abord, comme première condition, venir à lui. Il le répète à deux reprises dans les versets 25 et 26. Venir à moi et me suivre. Deuxième condition, il faut être prêt à renoncer à toute sa famille. Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même son propre moi, nous dit le verset 26. Et le verset 33 de résumé, être prêt à abandonner tout ce qu'on possède. Troisième condition, après avoir renoncé à tout ce qu'on a, à tous les êtres qui nous sont chers, pour suivre Jésus, eh bien, il faut être prêt, en suivant Jésus, à mener une vie de souffrance, à porter sa croix. Porter sa croix, c'est bien le symbole d'une souffrance, d'une difficulté. Être disciple de Jésus peut être un fardeau lourd à porter. Peut-être certains ici dans la salle savent ce que c'est. Être disciple de Jésus peut être un fardeau lourd à porter. Je me suis demandé, mais dis donc, les foules là qui entendent ça doivent se dire, mais waouh! Mais pour qui il se prend quand même? Tout abandonner, tout ce qu'on a, toutes les personnes qui nous sont chères, et en plus, s'embarquer dans une vie de galère. Mais pourquoi? Pour qui? Pour lui? Mais qui est-il, lui, ce Jésus, pour demander autant de sacrifices? Qui est ce Jésus? Pour aider la foule à comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il demande tout ça, toutes ces conditions, Jésus va utiliser deux illustrations. Il dit à partir du verset 28, « En effet, donc ce qui suit explique un peu ce qui précède. » Les deux illustrations que Jésus propose représentent quelqu'un qui, dans un premier temps, veut construire une tour. Son objectif, c'est de construire une tour. Pour construire cette tour, cette personne s'assoit et fait ses calculs. Dans d'autres traductions, il est dit « calcule la dépense ». Donc il essaie de calculer « cette tour va me revenir à tel prix ». Dans mon compte, j'ai ça, je peux percevoir ça. Ah, mais est-ce que ça me suffit pour aller jusqu'au bout? Un objectif est le calcul des moyens pour atteindre cet objectif. Et cette personne est appelée aussi à mesurer le risque d'un échec éventuel. S'il ne réussit pas, eh bien d'abord il aura gaspillé son argent. Mais aussi il fera face aux moqueries des gens. Deuxième illustration, Jésus utilise l'image d'un roi qui aimerait vaincre son adversaire. Un roi qui aspire à la victoire sur un autre qui est prêt à marcher contre lui. Là aussi, ce roi s'assoit et fait ses comptes. Il compte les soldats qu'il a dans son armée. Il en a apparemment 10 000. Celui qui est prêt à marcher contre lui, nous dit le verset 31, en a 20, 20 000. Ah, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je vais me lancer dans cette histoire, dans ce combat, dans cette guerre? Qu'est-ce que je risque si je perds? On imagine que ce roi, s'il perd, ben, va devant une humiliante défaite, mais on imagine aussi qu'il risque sa vie, il risque sa peau. Les deux histoires que Jésus nous raconte, ces deux illustrations, nous montrent deux personnes qui ont un objectif, construire une tour ou vaincre un adversaire. Deux personnes qui calculent. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le mot « s'asseoir pour calculer » qu'on retrouve au verset 28, il est dit « En effet, si l'un d'entre vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle coûtera ?» Il a dit la même chose pour le deuxième exemple où Jésus nous dit au verset 31 « Supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre, ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir ?» pour examiner s'il peut atteindre son objectif. Deux personnes qui ont des objectifs, deux personnes qui prennent le temps de s'asseoir et de réfléchir et de calculer. Deux personnes qui sont lucides sur les risques qu'elles encourent si elles n'y arrivent pas. La défaite et même la mort pour l'un, le gaspillage et la moquerie pour l'autre. Quand j'essaie de relier les deux parties du texte qu'on a lu, la première partie où Jésus nous dit « Sacrifie tout, porte ta croix et suis-moi. » Et ces deux illustrations où Jésus dit « Assieds-toi, compte ce que tu as, pense à ton objectif. » J'ai du mal à bien comprendre la logique entre les deux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais d'un côté, tu dois tout abandonner et de l'autre, tu dois bien compter ce que tu as. Je me suis demandé, mais waouh, soit il y a quelque chose qui m'a échappé, soit là, il y a peut-être un point qu'il faut creuser. Pour Jésus, le plus important pour le chrétien n'est pas d'abord de se lancer à corps perdu dans des sacrifices, dans des œuvres, dans l'abandon de toutes choses. La première chose que le disciple de Jésus doit comprendre, c'est quel est son objectif. Pourquoi toi, ce matin, dans cette église, ici à Blanc-Ménil, pourquoi tu veux être un disciple de Jésus? Pourquoi? Il faut s'asseoir et réfléchir, frères et sœurs. Pourquoi toi, Fédosi, toi, Christian, toi, Patrick, toi, Marie, toi, Léonce, toi, Jean-Pierre, au fait, pourquoi tu veux être un disciple de Jésus en ce matin? Voici la première parole que Jésus adresse à la foule. Quel est ton objectif? Être disciple de Jésus ne doit pas se faire à la légère comme quelqu'un qui suit la mode, qui suit la foule, pour faire comme papa, comme maman, comme ma femme, comme mon mari, comme mes amis. Être disciple de Jésus implique de comprendre qui est ce Jésus. Sylvain l'a aussi nous l'a rappelé dans ce texte qu'on a lu. J'aimerais qu'on le relise, ce verset, Jean 3, 16, verset qu'on connaît par cœur, mais qui vraiment résume bien quand même. Qui est-ce qui doit être pour nous, ce Jésus? Jean 3, 16, un verset dont on ne se lasse pas. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, ce Jésus, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la mort, ou dans ma traduction, échappent à la perdition, et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Voici ce qui doit être l'objectif du disciple de Jésus. Le disciple de Jésus doit avoir compris que la vie de tout homme ne s'arrête pas à la vie terrestre, charnelle, ici-bas. La vie de l'homme ne s'arrête pas à ses biens, à sa famille, même à tout ce qui lui est cher, sa femme, ses enfants, son mari. La Bible nous dit que tout ça passe. Le destin de tout homme est de passer l'éternité, frères et sœurs, avec ou sans Dieu, la perdition ou la vie éternelle. Et le seul moyen de choisir la vie éternelle, c'est de placer sa confiance dans ce Fils de Dieu, son unique, ce Jésus-Christ. Le disciple de Jésus doit comprendre cela. Et si tu as compris cela, frère ou sœur, ce matin, alors tu comprends que tu peux avoir 10 000 projets dans ta vie. J'en ai moi-même beaucoup. Peu se réalise. Un projet doit être ta priorité. Être auprès de Dieu pour l'éternité. Éviter que mon âme passe l'éternité en enfer, dans la perdition. Ça, pour le disciple de Jésus, ça doit être son objectif prioritaire. Et j'aime bien ce verset, Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, verset 26, où Jésus dit lui-même, Matthieu 16, donc verset 26. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Quand bien même je posséderai le monde entier, je passe à côté de l'essentiel. La vie éternelle auprès de Dieu. Est-ce qu'en ce matin, j'ai compris ça? Nous sommes là au dernier culte de l'année civile. Faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui sorte de cette salle sans avoir compris ça. Être disciple de Jésus-Christ, d'abord, c'est pas faire des sacrifices, c'est pas faire des efforts, c'est pas faire 10 millions de choses dans l'église. Tout ça, c'est bien. C'est d'abord avoir compris une chose, que ce Jésus-là, c'est en lui seul que réside le salut de l'humanité. C'est lui seul qui sauve l'être humain. Une fois qu'on a compris cet objectif, alors, on peut faire comme les deux personnes de ces deux illustrations dont Jésus parle. Ces personnes font leur compte. Ah, je veux construire une tour, combien j'ai? Ah, j'aimerais gagner vraiment et me libérer de ce roi qui m'assaille. Mais est-ce que j'ai une armée qui peut m'aider, qui peut m'appuyer? Eh bien, le chrétien est invité, là, si je comprends ce texte, le chrétien est invité à faire pareil. Oui, nous sommes invités à nous asseoir et à calculer, à compter, à estimer. Mais attention, il ne faut pas se tromper de compte. Si ton objectif, c'est bien de passer l'éternité auprès de Dieu, sache qu'il n'y a qu'un seul moyen qui te le permette, c'est ta foi, ta confiance en Jésus-Christ. Dès lors, si rien de tout ce que je possède ne peut me garantir l'entrée dans le royaume de Dieu, si ce n'est donc cette foi, cette confiance, mais cette confiance que j'ai en Jésus, cette foi, cette relation en Jésus, pour moi, chrétien, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Et donc les comptes que je vais m'asseoir pour faire, les comptes vont être du type, ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans cette foi? Comment je peux la nourrir? Comment je peux m'affermir dans la foi? Et c'est ça, la tour que le chrétien est invité à construire. On n'est pas appelé à stagner dans la foi, mais à grandir, à mieux connaître ce Jésus, à mieux le suivre, à mieux le servir. Si pour toi l'objectif, c'est de passer l'éternité auprès de Dieu, et que tu sais que le seul moyen d'y arriver, c'est ta foi, c'est ta relation avec lui, c'est ta confiance en lui, alors tu seras vigilant. Vigilant contre tout ce qui peut t'ébranler dans cette foi. Tout ce qui peut te détourner de ce Jésus. Et c'est ça le combat du chrétien. Nous ne sommes pas comme ce roi qui va en guerre. Oui, nous on ne va pas en guerre. Mais on lutte chaque jour. C'est des combats rudes, comme une guerre. Pour ne pas être ébranlé dans notre foi, pour ne pas nous détourner de ce Jésus qui seul nous réconcilie avec Dieu. Voici les comptes que nous sommes invités à faire aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a précisé cet objectif, qu'on s'est assis, qu'on a fait nos comptes, frères et sœurs, on comprend mieux les sacrifices que Jésus demande. Ça paraît tout d'un coup logique et même normal. Rien dans ce monde ne doit me détourner de Dieu. Même pas ma femme, même pas mon père, même pas ma mère, même pas mes frères. Le disciple de Christ doit être prêt à ce sacrifice, à renoncer à ça. La Bible ne nous invite pas à être des gens qui abandonnons nos familles, surtout pas. Que les choses soient claires. Ce n'est pas le modèle de vie que Jésus a pour ses disciples. Et ça, il a précisé clairement à maintes reprises. Jésus rappelle ce commandement: honore ton père et ta mère. Pour ce qui est des relations mari et femme, Jésus le dit clairement aussi, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Marc chapitre 10, verset 9. Aime ton prochain comme toi-même. L'apôtre Paul, en Romains chapitre 12, verset 18, dira: autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, le modèle de vie du chrétien, ce n'est pas celui qui se coupe de sa femme, de ses frères et de son père. Surtout pas. Mais le chrétien doit quand même savoir que s'il est en situation, s'il est obligé de choisir entre sa famille et le Christ, qu'il n'hésite pas, qu'il choisisse le Christ. Je sais que ces textes sont difficiles. Notez que Jésus lui-même finit ce passage par une expression qu'il apprécie bien, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est bien le signe que ce n'est pas facile à entendre. Personnellement, moi, je ne sais pas pour vous. Ah, je n'ai pas envie de laisser ma femme. Je n'ai pas envie de laisser mon frère. Je n'ai pas envie de laisser ma sœur. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, ce texte de Jésus, là, ah, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais encore une fois, frères et sœurs, ce n'est pas le modèle de vie que la Bible souhaite pour nous. Plutôt que de me retrouver dans une situation où je serais mis en face d'un choix, choisir entre Dieu et les autres, la Bible nous invite à être autour de nous comme du sel, le sel de la terre. Jésus dira à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Un bon moyen pour ne pas choisir entre ta famille et le Christ, eh bien, c'est peut-être de leur annoncer l'évangile. Un bon moyen pour ne pas se retrouver dans une situation de choisir entre ses enfants et le Christ, c'est peut-être dès le bas âge de leur annoncer l'évangile. Un autre moyen de ne pas se retrouver dans une situation à choisir entre sa femme, son mari et le Christ, c'est de leur annoncer l'évangile. Ou si tu es encore célibataire, de choisir un chrétien, une chrétienne qui partage ta foi. Être le sel de la terre, le verset 34 nous dit: le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Être disciple de Jésus-Christ et être le sel de la terre, frères et sœurs, si c'est ce à quoi tu aspires en ce matin, Jésus-Christ te dit que tu as fait le bon choix. C'est une bonne chose. Et Jésus nous envoie en mission: soyez le sel de la terre. Le sel a des caractéristiques qui sont diverses. Il évite la corruption, c'est-à-dire qu'il empêche que les aliments pourrissent. Il fait ressortir le goût. Il assaisonne. Mais le sel aussi donne soif. Quand on consomme beaucoup de sel, on a soif. Peut-être on peut transposer ces images à la vie du chrétien dans son environnement. nous sommes ceux qui évitons la corruption. Non pas en nous-mêmes, mais parce que nous annonçons Jésus-Christ et nous révélons à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous écoutent, que sans Dieu, l'homme est perdu. Sans Dieu, l'homme est perdu. Nous faisons ressortir du goût dans l'être humain. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on révèle à ceux qui nous entourent que Dieu les aime, qu'ils ont de la valeur pour Dieu. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé chacun et chacune qu'il a envoyé son Fils. Pour plaire à Dieu, viens à Jésus. Et enfin, nous devons donner soif. Soif à ceux qui nous entourent, qu'ils aient, quand ils observent notre manière de vivre, notre manière de nous tenir, de nous comporter par les choix de vie qu'on fait, qu'ils aient envie de venir à Jésus en disant « Waouh, quand même, celui-là, ça alors !» Comment il est, lui, à cause de sa foi ? Comment il vit ? J'ai envie de découvrir ce qu'il a transformé de cette manière. Les sacrifices que Jésus demande sont difficiles. Il nous invite à lui donner la première place dans notre cœur. Il nous invite à être prêts à renoncer à tout abandonner pour le suivre. Mais la mission à laquelle il nous appelle est encore plus belle. Celle d'être le sel de la terre, d'être ses instruments pour faire venir à lui ses fils et ses filles qui sans lui sont perdus. Alors, frères et sœurs, le message de ce matin t'invite à prendre au sérieux ton engagement avec Jésus. Prends-le au sérieux. Si nous, les chrétiens, qui sommes invités à être des disciples, des vrais disciples, qui aimons Jésus, qui le servons, si finalement nous sommes comme du sel qui devient insipide, comme dit le verset 34, le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, c'est-à-dire s'il perd son goût, comment lui rendra-t-on sa saveur ? Verset 35, on ne peut plus l'utiliser, ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'y a plus qu'à le... Ah, j'ai pas bien entendu. Il n'y a plus qu'à le...
jeter.
C'est vrai qu'on n'a pas envie de... Il n'y a plus qu'à le jeter. Ce sont des paroles dures. Mais ce sont des paroles réelles. Le chrétien ne doit pas suivre Jésus à moitié. Si du sel que nous devons être, nous devenons insipides, sans goût, mais qu'est-ce qu'on peut faire de sel qui n'a plus de goût? Jésus là parle à des personnes qui vivent dans un milieu agricole. Mais ce sel-là qui n'a plus de goût, ils ne peuvent pas le semer, le planter. Ça ne va rien donner. C'est des cristaux. Ils ne peuvent même pas en faire du fumier. Puisque comme il y a des cristaux de sel dedans, ça ne pourrit pas. Le fumier, c'est ce qui, en pourrissant, fait de l'engrais. Qu'est-ce qui reste donc? Si le sel a perdu son goût, si on ne peut rien en faire, il n'y a plus qu'à le jeter. Que celui qui a des oreilles, frères et sœurs, en ce matin, entende. C'est un message qui s'adresse à nous tous. Ne passons pas à côté du salut que Jésus-Christ nous offre. Ne le suivons pas à moitié. Ne faisons pas semblant de le suivre alors qu'en fait on suit notre propre chemin. La question que je nous adresse en ce matin, c'est après quoi je cours? La fin d'année est propice pour faire des bilans, pour s'asseoir et réfléchir. Assieds-toi et réfléchis. Après quoi cours-tu? Peut-être en 2012, tu as eu envie de t'engager pour le Seigneur. Tu as eu très envie. Mais tu n'as pas pu le faire à cause de tes millions d'occupations. Les enfants, le mari, la famille, le travail, l'argent, les dettes, ceci, cela. La Bible nous invite en ce matin à faire une pause, à s'asseoir et à réfléchir. Quelles sont mes priorités? Après quoi je cours? Peut-être en ce matin, tu es un chrétien de longue date déjà, affermi dans la foi. Eh bien, ce message est aussi pour toi. Tiens bon. Tiens bon dans la foi. N'abandonne pas en plein milieu du chemin, comme quelqu'un qui commence une toux et qui s'arrête au milieu. Le monde qui nous entoure, frères et sœurs, est très friand de se moquer des chrétiens qui chutent. Ah oui. Voici celui-là qui nous donnait des leçons de morale. Ah, il se disait le bon chrétien, là. Oui, il ne buvait pas d'alcool, il ne faisait jamais la fête. Ah, tu parles. Ce qu'il faisait derrière, laisse tomber. Ah, ils sont très friands de se moquer des chrétiens. Je le vois, là, j'entends les informations que les chrétiens et les musulmans se battent en Centrafrique. Chaque fois que j'entends ça, ça me fait tellement mal au cœur. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'ils vont penser les chrétiens là-bas. En Centrafrique, les musulmans ont pris des armes à feu et les chrétiens ont pris des machettes. C'est encore pire. Mais c'est ainsi. Si tu es chrétien de longue date, ne t'arrête pas en si bon chemin. Tiens ferme jusqu'au bout. Et si tu es dans cette église en ce matin et que tu ne connais pas encore le Seigneur, le seul message que je peux t'adresser en ce matin, après tout ce qu'on a dit dans la présidence, dans la prédication, c'est encore une fois, assieds-toi et réfléchis. Amen.